vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 80. Nous irons tous au paradis, chers amis, bonjour, tous au paradis. Et oui, aujourd'hui, c'est le dernier épisode de « Vous l'avez bien connu » et après la pause d'été où nous rediffuserons les épisodes les plus palpitants, nous reprendrons cette série avec une nouvelle formule. Eh bien donc, puisque notre exploration du temps perdu et du jeu du hasard nous a menés quelque part, que ce soit le paradis plutôt que l'enfer, eh bien, avant d'atteindre le paradis, il y a une étape, il y a une sorte de purgatoire. Alors, à moins d'une montée instantanée, je dirais accidentelle, nous passons tous par ce purgatoire. Et nous avons avec nous aujourd'hui une invitée formidable, puisqu'elle gère cet endroit qui, vous allez le voir, ne vous est pas inconnu, mais qui pourtant est mystérieux. Bonjour Odile Herades.
Bonjour Ambroise Perrin, je suis ravie d'être ici pour votre dernière émission. Et pour moi, c'est une première, c'est la première fois que je parle à la radio.
Eh bien, je vois déjà que c'est avec un brio formidable. Je sens que nous allons aller au paradis ensemble et on va encore entretenir le suspense. Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y et nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie avec ses mystères de Strasbourg et ses mystères de Paris, avec ses bons enfants et ses mauvais sujets, avec toutes les merveilles du monde qui sont là, avec tous ces gens qui sourient en bonne santé, et tous les autres, un peu ou beaucoup malades, qui vont dans cet endroit avant de monter au ciel, ceux qui croient au bon Dieu et ceux qui se moquent de la religion, ceux qui blasphèment avec Jacques Prévert, qui a des écoles, hein, qui a donné son nom à des écoles, c'est ce poème. Eh bien, avant de monter au paradis, qui est parfois un vrai enfer, eh bien, toutes ces personnes, elles vont où ? Elles vont dans une pharmacie. Voilà donc, belle conclusion à toutes ces variations à la recherche du temps perdu. Ce lieu qui nous fait gagner encore un peu de temps sur Terre, c'est la pharmacie. Et donc, Odile Herades, vous êtes donc pharmacienne. Alors, c'est vous que l'on vient voir avant Dieu le Père ou le diable son compère ?
Bah écoutez, oui, je suppose. En tout cas, 4 millions de Français entrent tous les jours dans une pharmacie. Donc, c'est...
Bah c'est voilà. Presque 8% de la population qui vient tous les jours.
D'accord. J'espère que autant de Français ne vont pas...
mourir tout de
voilà,
suite.
Voilà, au purgatoire tous les jours.
Parce que ce serait des
clients
perdus.
Ça ferait beaucoup quand même, 4 millions de personnes.
Oui. Mm-hmm. Mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de pharmacies qui sont les antichambres donc, du paradis.
Il y a 20 000 pharmacies en France.
Oui.
Voilà. Donc, oui, beaucoup d'antichambres du paradis ou de l'enfer.
Est-ce que aller dans une pharmacie, c'est une sorte d'angoisse quand même, en se disant, alors pas si c'est pour les autres hein, qui sont alités, mais quand c'est pour soi-même, on se dit, mince, ça commence à sentir le sapin.
Pas toujours, et même pas souvent, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une angoisse, quand les gens entrent dans la pharmacie. Et d'autant plus maintenant avec la pénurie de médicaments. Parce que est-ce que la pharmacie va avoir mon médicament ? Est-ce qu'ils vont pouvoir le commander ? Est-ce que je vais devoir revenir ? Ou est-ce qu'on va m'envoyer dans une autre pharmacie ?
Ah oui, donc ça, c'est une angoisse qui est un petit peu différée. C'est pas l'angoisse de la mort plus ou moins prochaine. C'est l'angoisse de la survie.
Alors,
hypothétique.
Les angoisses, c'est souvent les choses que les gens cachent le mieux. Puis il y a tellement de médicaments pour ça aussi.
Les placebos ?
Pas forcément des placebos. C'est en France qu'on consomme, je pense, le plus d'antidépresseurs.
Ah oui.
Dans toute l'Europe.
La déprime.
Donc, pas mal de déprime, oui, effectivement.
Est-ce que lire de la poésie, ce n'est pas plus efficace que prendre des antidépresseurs?
Si, ça pourrait, oui, pourquoi pas. Je pense que quand on a... c'est un remède multiforme, je dirais, à la dépression.
Oui.
Ça passe par les médicaments et par plein d'autres choses, les relations sociales, voilà.
Remède à la mélancolie, comme disait...
Oui, voilà, c'est une très jolie
Baudelaire,
émission de radio,
l'émission de radio,
c'est ça,
oui.
Remède à la mélancolie.
Oui. Alors, j'avais lu qu'au Canada, les médecins y prescrivaient un quart d'heure de promenade en forêt, plutôt que des médicaments.
Mais pourquoi pas ? C'est pas encore le cas chez nous, mais ça c'est du bon sens, non, un petit peu.
Oui.
Voilà.
Voilà, faire le tour du parc de l'Orangerie 3 fois, remboursé par la Sécurité sociale.
Ouais, pourquoi pas. Oui.
Est-ce que vous voyez l'angoisse sur le visage des gens ? Est-ce que vous repérez tout de suite, avant même qu'ils vous donnent leur ordonnance, bon, sauf s'ils ont un blafard, que celui-là, il a un super cancer et qu'il n'en a plus pour longtemps ?
Quand on connaît les gens, oui, on voit qu'ils ne sont pas comme d'habitude. On voit qu'ils ont le visage fermé ou crispé. Mais l'angoisse, elle peut prendre aussi... je me suis rendu compte que l'angoisse, elle pouvait prendre aussi les pics d'angoisse peuvent prendre des formes de colère. Les gens explosent parce que on n'a pas leurs médicaments, par exemple. Et ça, en fait, c'est pas... On aurait tendance à dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il est con, celui-là ?» Mais en fait, non, je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec les pénuries qu'on a en ce moment, aussi avec le Covid. Parce qu'une fois, ce qui nous est arrivé avec le Covid, on a fait un dépistage, c'était avant les vacances de Noël. C'était une famille qui venait. Et un des enfants, donc toute la famille était négative, donc un test négatif au Covid, donc pas de Covid. Et un des enfants avait un test positif. Et la réaction de la maman, elle a explosé comme une furie et elle lui a dit à ce gamin qui n'en pouvait rien, à cause de toi, on ne va pas pouvoir partir en vacances.
C'était terrible, ça.
Oui, c'était terrible.
Pour la culpabilité et, comme
et,
cela.
Mais, et de... en fait, ça m'a tellement coupé la parole. En fait, j'ai rien dit. Peut-être que j'aurais dû dire quelque chose, mais j'ai rien dit.
Montrer
parce que
un peu de
je
compassion
pas,
à l'enfant.
Oui, bien sûr, je lui ai montré un peu de compassion, mais je n'ai pas repris la maman parce que je ne savais pas quoi dire, j'avais peur d'envenimer les choses encore. Mmh. Et après, j'ai réfléchi que cette maman, c'était une maman tout à fait aimante. Et en fait, c'était une espèce d'angoisse, en fait.
Est-ce que le pharmacien est aussi un psychologue, certes ? Est-ce que dans les études de pharmacie, on fait de la psycho ?
Non, pas du tout.
Ah bah.
Non.
Donc c'est un peu au pif qu'on est sympa ou pas avec les clients ?
Oui, je pense qu'on apprend ça avec le temps.
Oui, avec le temps, on va...
Ouais, ouais.
Tout s'en va. Oui. Moi, je verrais plutôt les clients, entre parenthèses, ou les patients. Comment vous les appelez, d'ailleurs ?
Ça dépend, les deux, oui.
Bon, les gens qui rentrent dans la pharmacie, explosés en disant « Mais pourquoi c'est moi qui ai ce foutu cancer, alors qu'il y en a un sur 100 000 dans la population, il fallait que ça tombe sur moi ?» Non ?
Non, ça...
Sans qu'il y ait d'explication, disons, biologique ou rationnelle.
Oui, mais... Je pense que
la
vie n'est pas juste et les gens l'ont intégrée depuis longtemps, non ?
Il y en a même qui croient qu'ils vont gagner au loto.
Aussi,
oui. Qui est une bêtise aussi.
Voilà.
Enfin, on sait très bien. on joue pendant 3 ans au loto, ça équivaut à acheter une voiture au bout de 3 ans. Donc, c'est une bêtise sans nom, mais on le fait quand même.
Enfin, oui, mais on n'est pas rationnel.
On n'est pas rationnel.
Du tout, du tout.
Oui, alors quand on arrive à un âge respectable, celui de la retraite, et qu'on est en bonne santé, on peut se dire, c'est vachement bien, on est très content, pour moi la vie va commencer. Non, c'est...
Je crois qu'il y a un petit livre qui s'appelle La vie commence à 60 ans. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes après 60 ans, donc encore jeunes, en bonne santé et qui profitent bien de leur retraite, oui, tout à fait.
Avec toute l'expérience qu'ils ont pour pouvoir bien gérer leur vie et ne pas tomber dans les pièges du temps perdu et du jeu du hasard et des amours éphémères et pourquoi pas intemporels et éternels.
Alors... Mais vous qui aimez bien le temps perdu, est-ce que je peux dire quand même que grâce à la vaccination, à chaque fois que je peux, je promeus la vaccination. Depuis 1974, 156 millions de vies ont été épargnées grâce à la vaccination, ce qui fait 10,5 milliards d'années. Alors ça, c'est pas du temps retrouvé ?
Ah, c'est un chiffre génial, ça. Ah, si Proust avait connu ce chiffre, vous pouvez répéter combien de milliards d'années ?
10,5 milliards d'années récupérées, retrouvées depuis 1974.
Grâce à la vaccination.
Voilà.
Oui, mais alors ça veut dire que la Sécurité sociale a payé autant d'années pour de soins et de gens, de retraite et tout ça. C'est pour, voilà.
Le bonheur des uns fait le malheur des autres.
Hein. C'est pas le malheur, non, c'est la solidarité des autres.
Exactement.
Oui, il y avait un médecin que j'aime beaucoup, qui faisait aussi de la politique, qui avait dit une fois par boutade à tous les fumeurs... continuez à fumer, comme ça vous mourrez le lendemain de votre retraite, vous nous ferez faire des économies.
C'est vrai ?
Oui, il avait dit ça
c'est
en rigolant.
Cynique.
Il s'appelle Bernard, Kouchner donc et tout, mais c'était une boutade hein, qu'il avait dit comme
oui,
ça.
Bien
mais après,
sûr,
oui,
bien
oui,
sûr,
oui, oui.
Mais c'est de l'humour noir.
Oui, mais je crois qu'en Grande-Bretagne, les gens qui sont soignés pour un cancer de la gorge ou des poumons, enfin dû au tabac, s'ils continuent à fumer... on leur déconseille ou on leur refuse même les soins. En tout cas, il y a une législation comme ça qui
je pense qui que c'est possible. Il me semble que j'avais lu que, par exemple, ils n'étaient pas... ils allaient tout en bas de la liste pour se faire mettre une prothèse de hanche ou ce genre de choses. Oui. On ne fait pas de frais sur eux, si on peut dire. Oui.
Oui. Mais... on est toujours responsable de ce que l'on fait d'une façon ou d'une autre ou il y a une irresponsabilité des gens.
Je sais pas, j'ai l'impression que la plupart des gens font ce qu'ils peuvent. Et que
alors,
c'est pas tout
ce
à fait...
peuvent, ce n'est pas ce qu'ils doivent.
Oui, bien sûr, mais c'est ce qu'ils
est-ce
peuvent.
Est-ce que vous arrivez...
Ils voudraient peut-être bien faire ce qu'ils doivent, mais...
Oui. Est-ce que vous décelez chez les patients, donc, qui reviennent, disons, avec leur ordonnance tous les 15 jours, tous les mois, s'ils ont bien suivi... ce que leur a dit le médecin, c'est-à-dire une pilule le matin, deux pilules le soir, que vous-même, très scrupuleusement, vous l'inscrivez sur le paquet, puis vous vous rendez compte qu'ils sont complètement plantés et que donc ils suivent mal le protocole qui leur permettrait de survivre
alors,
ou de guérir.
On s'aperçoit effectivement que des gens suivent mal leur traitement, mais ça c'est un signe d'alerte pour nous. Ça peut vouloir dire que la personne âgée perd un peu sa tête, en fait. Quelquefois, on voit, elle nous dit qu'elle a encore de ce médicament-là, alors qu'elle ne devrait plus en avoir. Et à l'inverse, elle n'en a plus d'un autre qu'elle devrait encore avoir.
Donc, elle en a parce pris trois d'un coup.
Voilà, c'est ça. Donc, elle prend mal ses médicaments. Ça, c'est un signe d'alerte. Et il faut voir avec le médecin pour ou lui faire un pilulier, voir avec le médecin et la famille.
D'appeler le médecin traitant pour dire votre patiente, là, il y a un problème, faudrait
oui, de temps en temps, bien sûr, oui, oui.
Oui.
Oui, oui.
Vous avez de bonnes relations avec les médecins
En général, oui. Oui, oui, oui bien sûr.
Oui, oui. Oui. Et ça vous arrive de déceler des incohérences de la part du médecin ?
Oui, mais c'est notre travail, justement, de déceler des choses qui vont pas dans l'ordonnance, des choses qui pourraient être améliorées. Oui, ça fait vraiment partie de notre travail de tous les jours.
Et le médecin ne pense pas que vous empiétez sur ces...
Non, pas du tout, non.
Il vous remercie d'avoir
oui, la plupart
vigilant.
La plupart du temps, oui. Parce que les médecins, ils sont plutôt débordés en ce moment. C'est compliqué pour eux aussi. Donc,
ça leur arrive de faire des erreurs ou
Des erreurs, des oublis.
Oui.
Voilà,
parfois des médicaments
par exemple,
il
clique aussi trop vite sur la ligne qu'il ne faut pas sur leur logiciel. Et voilà, des incohérences, en fait.
Et donc ça, vous contrôlez.
Oui.
Parce que être pharmacien, c'est un cursus d'études qui est très long.
C'est 6 ans. Et après les 6 ans, à la suite des 6 ans, il y a une thèse pour devenir docteur en pharmacie.
Voilà. Mmh. Mais toutes les personnes qui sont dans la boutique, dans le magasin, ne sont pas docteurs en pharmacie.
Non, il y a aussi des préparateurs et des préparatrices.
Voilà. Et qui ont la même vigilance ?
Elles ont la même vigilance, oui, bien sûr, oui.
Au besoin, elles demandent au docteur.
Voilà, exactement. Elles demandent, quand elles ne savent pas, elles demandent, oui. Oh, quand elles ont un doute. Mais même le pharmacien demande. Hein. Dans les pharmacies, ce qu'il y a de plus en plus, c'est la double lecture de l'ordonnance. C'est-à-dire que l'ordonnance, ça dépend comment les pharmacies sont organisées, soit ça se fait directement au comptoir, l'ordonnance est vue par deux personnes, ou soit ça se fait après coup dans la journée, où quelqu'un repasse à l'ordinateur toutes les ordonnances qui ont été servies ce jour.
Et ça vous arrive à ce moment-là de rappeler un patient pour lui dire attention?
De temps en temps, oui. Oui. De temps en temps, oui.
Vous avez une anecdote là-dessus où vous sauvez la vie de quelqu'un?
Non,
pas
non.
À ce point-là,
non,
mais...
pas à ce point-là. Non, non. J'ai pas.
Oui.
Non, j'ai pas d'anecdote où on a sauvé la vie de quelqu'un de cette façon-là. Je crois que.
Alors j'ai une.
On ne sait pas forcément en fait quand on sauve. Je pense que. Quand on sauve la vie de quelqu'un, c'est peut-être de l'envoyer voir un médecin, justement, ou, voilà, en se disant que... voilà,
alors, il y a des médicaments qui sont, disons, très puissants, très forts, les médicaments, disons, de fin de vie, ou des gens qui ont vraiment qui sont au bout du rouleau, vous le décelez, ça. Enfin, vous le voyez sur l'ordonnance. Vous voyez,
oui, bien sûr.
Est-ce que vous voyez, vous dites, bon,
oui.
Là, si le médecin prescrit ça, c'est qu'il lui reste 3 mois.
Ce serait vraiment péremptoire, non, de dire ça. On ne sait jamais. Donc,
oui. Heureusement qu'il y a des miracles et qu'on y croit.
Oui, mais, mais il y en a de temps en temps, heureusement. Et ce qu'on voit plutôt, c'est oui, c'est vraiment des ordonnances de fin de vie. Mais là, c'est même plus la personne qui vient les chercher. C'est son...
Sa famille.
Son aide de vie, sa oui. famille, voilà, ouais.
Oui. Mm-hmm. Alors là, oui, là, c'est...
Ouais. Et souvent, enfin, ce que je trouve triste quelquefois, c'est qu'on a des patients qui viennent à la pharmacie des années, donc des vieilles personnes, puis tout à coup, on ne les voit plus. Et on apprend après qu'elles sont parties à l'EHPAD. Qu'elles ont été, et on n'a pas de leurs nouvelles, en fait.
Oui. Elles ne viennent pas vous dire au revoir, comme elles le feraient peut-être pour le boulanger en face ou chez...
Peut-être, oui, voilà. Ouais. Donc ça, c'est un peu... voilà.
Ouais. Et on peut imaginer aussi des patients... qui se laissent aller, qui disent, bon, allez, les médicaments terminés, je laisse courir.
Oui, ça, on essaye d'être vigilant aussi là-dessus et de, voilà, d'essayer de discuter, d'engager la conversation, voir si on peut faire quelque chose ou
leur
pas.
Leur remonter le moral ou leur proposer de
oui,
faire d'autres activités.
Mais je pense qu'il y a
activités.
Vraiment, surtout ça se voit ça dans les couples, les couples âgés où l'un des deux part, l'autre... Ben, il reste là tout seul et quelquefois c'est vraiment difficile pour le survivant. Il y avait un vieux monsieur comme ça qui prenait jamais de somnifères. Puis un jour il est venu à la pharmacie avec une ordonnance de somnifères. Et puis il me disait oui, il avait perdu sa femme quelques semaines avant. Et il me dit oui, quand ma femme était là, elle me reprochait toujours de trop dormir, et maintenant qu'elle n'est plus là, je n'arrive plus à dormir. Et ça, c'était... voilà, ça touche, quoi, en fait.
Oui, ça touche, c'est presque un sujet de roman.
Ouais. Je ne sais pas, mais...
Oui.
Mais je pense qu'on peut mourir de chagrin, oui.
Oui, mm-hmm. Ah oui. Oui, oui, on l'a vu, oui. Bon, on se fait une petite pause rigolote.
Oui.
Alors, voilà, on prépare ces médicaments. Alors, je sais, parce que j'avais vu ça avec ma maman et tout. Donc, pour la semaine, alors, on met
dans
les pilules.
Dans un pilulier,
on passe à un pilulier, ça s'appelle.
Voilà, ouais.
Là, on prépare tout. Là, on met ça sur la table. Et puis, les gens, bon, c'était pas son cas, elle avait pas. Mais il y a le chien qui vient.
Ah là là.
Et il bouffe tous les médicaments.
Oui.
Qu'est-ce qui lui arrive au chien? Il part au paradis. Non, c'est une blague, hein. C'est pour faire un gag, pour rigoler un peu au milieu
de l'émission. Je ne sais pas, j'appellerai le centre anti-poison, ils doivent avoir ça chez les vétérinaires.
Oui.
Oui, et je surveillerai le chien, oui, pour voir s'il lui arrive rien.
Et puis la dame...
Vaut mieux le chien que le petit enfant, non? Que le petit-fils qui passe par là.
Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, là, ça devient dramatique.
Et qui rafle tout, là, ça serait...
Non, moi, je voulais faire quelque chose de rigolo, mais oui.
Oui,
oui, c'est ça. Mais ça peut être... Oui, alors la dame, elle revient en disant, ben, mon ordonnance est terminée, mais je n'ai plus les médicaments, le chien les a mangés. Voilà, bon, ce sera un début de roman rigolo, mais
aussi,
je ne sais pas.
Oui. Quelquefois, ça, c'est des... des excuses pour avoir...
plus de médicaments.
Plus de médicaments. Bon, ça, c'est les gens qui sont addicts à des choses. Oui, on entend des excuses un peu délirantes, quelquefois.
Ah oui, le chien a mangé. Oui,
oui, ou alors parce que les médicaments peuvent être... J'ai jeté à la poubelle, je les ai oubliés dans le tram. Je suis passée à mobilette dessus. Oui, quelquefois, je vois venir et je dis, l'histoire, elle a intérêt à être belle.
Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous rappelez le médecin pour vous vérifier un petit peu? Ou c'est quoi, les gens qui prennent des trucs qui s'appellent des drogues, quoi?
Voilà, un petit peu ça. Ben, on discute et puis on essaye de calmer le jeu et de sursoir. Oui, voilà.
Est-ce qu'on peut donner, au lieu de donner la boîte complète, juste deux médicaments et vous revenez le lendemain?
Quelquefois, oui. Il y a des gens qui, quand ils ne les prennent pas bien, oui, il y a ça, oui. On donne pour la semaine ou même à la journée, ce qui est quand même très, très contraignant pour les personnes.
Oui, mais en même temps, la promenade pour aller de chez eux jusqu'à la pharmacie, c'est peut-être ce qu'ils font de meilleur pour leur santé.
C'est possible aussi, oui.
S'ils n'ont pas à traverser l'avenue des Vosges. Non, parce que c'est un gag récurrent dans notre émission, c'est de fustiger l'avenue des Vosges qui est devenu un endroit impossible à traverser, bien sûr.
Voilà. Oui. Voilà. Donc en fait, on risque sa vie pour aller à la pharmacie en traversant l'avenue des Vosges. Quoi.
Voilà.
D'accord.
Et on gagne du temps sur le paradis, c'est en allant manger de la tarte au fromage de la pâtisserie rue Gaillère. C'est l'autre gag que l'on a de temps en temps dans notre chère émission. Voilà. Donc, je recommande à tous les auditeurs
d'aller manger la tarte au fromage
de la rue Gaillère. Et je n'ai aucune action dans la boulangerie, bien sûr. Alors, est-ce qu'on gagne du temps sur la maladie, vraiment? Ou alors, c'est simplement ne pas souffrir, quoi, en fait, que d'aller chez le pharmacien?
Mais bien sûr que les médicaments guérissent des maladies, donc on gagne du temps.
Ils guérissent vraiment?
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr. On finit quand même par mourir à la fin.
À la fin, oui. On finit par mourir.
Oui. Mais... Sauf que la fin devient de plus en plus éloignée. Hein. Le nombre de centenaires, je crois, a doublé en 20 ans.
C'est possible, oui.
Oui,
oui. Oui, je pense que nous, on avait, dans la pharmacie, la dernière pharmacie où j'étais, on avait deux centenaires.
Oui.
Donc,
bon pied, bon œil.
Je pense que toutes les pharmacies doivent avoir
leur liste
Voilà, leur centenaire préféré.
Ah, mais vous pourriez faire ça avec une photo à l'entrée du magasin, comme dans les supermarchés, à un moment, il y avait la photo, la vendeuse du mois.
Et là, ce serait le patient du mois.
Oui, le centenaire du mois.
Ouais.
Oui, non, je ne sais pas, il y a toujours un petit peu... Voilà. Alors, le mot pharmacie, j'ai cherché un petit peu.
Oui.
Pharmakon, en grec ancien, ça signifie à la fois le remède, mais aussi...
Le poison.
Le poison.
Oui, c'est la dose, en fait, qui fait le remède, et c'est la dose qui fait le poison.
Ah ouais.
Voilà, donc encore la vie, la mort.
Ah, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre 10 pilules d'un coup, mais seulement une par jour.
Voilà, oui, parce que le médicament, ça, c'est aussi un problème de santé publique. Le médicament tue aussi. Ça s'appelle la iatrogénie, c'est prendre les médicaments pas comme il le faut. Et je crois que ça emmène beaucoup de gens à l'hôpital et ça tue, je pense, près de 10 000 personnes par an.
Fait de mal prendre
les
médicaments.
Voilà, exactement.
Donc la pharmacie est un lieu dangereux? Non. Non, mais là, j'essaye de provoquer, mais oui. Donc, c'est comme tout.
C'est comme tout.
C'est traverser l'avenue des Vosges au bon moment, c'est formidable, parce que ça permet d'aller de l'autre côté. Mais si on traverse juste au moment où il y a un 4x4 en furie qui passe, c'est dangereux. Quoi. Voilà,
on se retrouve comme un gâteau au fromage qui n'aurait pas levé.
Alors, il y a un personnage qui s'appelle Pedanius Dioscoride, qui est né dans les années 20 après Jésus-Christ. Alors, c'est un grec qui aurait vécu en Anatolie et qui est l'auteur d'un traité qui s'appelle Perioules Iatriques. Et c'est le premier que l'on connaisse sur l'utilisation des plantes médicinales.
D'accord.
Voilà. Donc, et alors, le pharmacien, c'est quelqu'un qui a toute la population sous sa main, enfin, en tout cas à l'époque, pour faire des tests, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour maintenir en vie ou pour envoyer directement au paradis. Et donc, en fait, au départ, enfin, il y a très longtemps, il n'y avait pas de molécules de synthèse ou des choses comme cela. C'était juste donc, des plantes, hein,
des plantes, le
pharmacien. Mmh. Et donc, il était à la fois, biologiste, chimiste et un petit peu...
Je pense qu'ils utilisaient aussi des produits animaux, sans doute, et des produits minéraux. Oui.
Mais donc là, ce n'était pas des analyses scientifiques, c'était...
C'était de l'empirisme.
De l'empirisme, oui.
Oui.
Et donc, est-ce que l'empirisme, ça peut être aussi quelque chose actuellement qui est... vous voyez bien que le malade, la dame va continuer à vous dire « Ah, mais j'ai mal au ventre, j'ai mal au truc et tout. » Est-ce qu'à ce moment-là, vous sentez qu'il faut peut-être changer un petit peu le médicament ?
Oui, bien sûr, on réadresse au médecin quand c'est comme ça. Oui, oui bien sûr, oui.
Oui, j'avais
ça, c'est du bon sens, alors. On va dire que c'est le bon sens qui a remplacé l'empirisme.
J'ai un copain qui est médecin en Moselle, donc là où il y avait les mines de charbon, et maintenant, c'est plus que des personnes âgées, et les dames viennent... Et cherche pelle-là, pelle-là. Alors, en fait, elle voulait dire j'ai mal au ventre. Mais pelle-là, c'est aussi la pilule et c'est aussi le petit caca qu'elle n'arrive pas à faire.
D'accord.
Et tout. Et donc, il comprenait très bien qu'elle venait se plaindre, mais en fait, il fallait lui proposer autre chose, de s'inscrire dans le club d'échecs ou de faire une activité sociologique, quoi. Donc, le pharmacien a ce rôle aussi un peu social.
Bien sûr, oui. Mais je pense que ça nous fait du bien à nous aussi. Quelquefois, la pharmacie, j'ai l'impression que c'est comme une petite bulle où on est bien, en fait, avec l'équipe et puis avec nos patients. C'est un petit monde, un monde de douceur.
Les patients discutent ensemble parfois dans les...
Ah oui, ça arrive quand c'est des pharmacies.
Ah, vous avez ça, moi aussi, j'ai eu ça.
Ça, quand ils se connaissent, c'est bien. Mais après, les gens qui se mêlent de l'ordonnance du voisin, ou qui... Exactement, ça, c'est...
Oui, ça risque d'être dangereux.
Ça, c'est pas toujours...
Mais le pharmacien peut être aussi un confident.
De temps en temps, bien sûr.
Qui vous dit, vous savez, moi, ma femme est partie, ne me donnez pas le médicament, ça sert à rien, je veux partir aussi.
Oui,
Hélène, je viens, je me souviens que mon grand-père disait ça quand ma grand-mère était décédée, oui. Oui, ça peut arriver.
Ça arrive et c'est difficile de savoir quoi dire, en fait.
Bon, mais alors, parfois, vous avez peut-être des patients qui ont quelque chose de très grave. Hein, vous le décelez sur l'ordonnance et pourtant, ils ne sont pas du tout anxieux. Enfin, ils sont insouciants.
Oui, mais le sont-ils vraiment ? C'est... Voilà. Oui. On sait jamais ce que les gens cachent. Et c'est... Voilà. C'est souvent le plus intéressant, d'ailleurs, mais...
Oui.
Voilà, c'est caché.
Oui.
Donc,
La vraie vie est ailleurs, comme disait Rimbaud. Oui.
Oui.
Mais vous avez combien de clients par jour dans une pharmacie de quartier comme ça ?
Environ 200.
200. Et par 3-4 personnes ou par... quels sont les pics ?
Alors, ça dépend vraiment de la situation de la pharmacie. J'ai eu une pharmacie qui était un arrêt de tram. Donc, ça c'était quand les gens allaient au travail, quand les gens repartaient du travail avant de prendre le tram, ils passaient à la pharmacie. Je pense que toutes les pharmacies ont leurs horaires de pointe. Les pharmacies où il y a un marché sur la place devant, c'est jour de marché.
La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y aura toujours de la place pour aller au paradis.
J'espère.
Voilà. C'est ça, parce que je vais demander à Thomas de nous envoyer la musique. C'était donc l'épisode numéro 80 de Vous l'avez bien connu. Merci Madame la pharmacienne Odile Erades.
Merci Ambroise Perrin.
Aujourd'hui, nous sommes allés au paradis. Alors Michel Polnareff, il faut lui dire merci aussi. Nous aurons toute la journée ce petit air en tête. On ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit. Alors donc merci Odile Erades.
Qu'est-ce qui doit être surpeuplé ce paradis ?
Ah, mais je crois que c'est extensible. Alors la pharmacienne qui nous a permis de prendre le temps de rester encore en bonne santé avant ce dernier épisode de la série des interviews sur notre recherche du temps perdu et du jeu du hasard, à la technique Thomas Marinelli. Alors cet été, donc, des rediffusions de « Vous l'avez bien connu ». On se retrouve à la rentrée sur Radio Judaïka Strasbourg. Et mon nom, et j'espère que c'est un médicament de bonne humeur, mon nom c'est Ambroise Perrin.